Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
La semaine dernière, le quotidien britannique le Financial Times expliquait qu'à l'échelle internationale, les marchés immobiliers commençaient à montrer quelques signes de ralentissement. Les taux d'intérêt plutôt bas soutiennent les volumes de vente et d'achat, mais dans le même temps, encouragent des prix très élevés. Quels pays sont concernés par ces prix élevés et jusqu'où ces prix peuvent-ils aller? Le boom touche-t-il à sa fin? L'immobilier est-il surévalué? Bonjour Thomas Grzebin, vous êtes économiste au CEPI, le centre de recherche et d'expertise sur l'économie mondiale. Vous travaillez sur les effets de la fiscalité sur les cycles de l'immobilier. Alors tout d'abord, pour établir quelques ordres de grandeur en matière de prix de l'immobilier, à quel niveau se situe la France par rapport aux autres pays européens ou aux autres pays tout court?
Bonjour, la France est un des pays, en particulier Paris, est une des villes les plus chères du monde. Donc si on veut faire quelques ordres de grandeur, par exemple si vous avez 300 000 euros, vous pouvez acheter autour de 18 ou 20 mètres carrés à Londres ou New York, 30 mètres carrés à Paris, 70 mètres carrés à Berlin et 100 mètres carrés à Bruxelles. Donc on voit que Paris est vraiment, même à l'échelle du monde, une des villes les plus chères du monde.
Comment explique-t-on cela, Thomas Grzebin ?
Alors, c'est un peu le même facteur dans tous les pays, c'est le fait que le crédit est très bon marché. Les taux d'intérêt depuis de nombreuses années sont à des niveaux très bas, ce qui permet aux ménages de s'endetter très facilement et ce qui fait monter, ce qui nourrit la hausse des prix.
Oui, mais alors, il y a aussi une question de solvabilité. Et on nous dit que l'économie française n'est pas, disons, l'économie en meilleure santé dans le monde aujourd'hui. Comment expliquer à la fois que Paris et les grandes métropoles françaises soient à des niveaux de prix très élevés en matière de prix de l'immobilier alors que l'économie française ne se porte pas si bien que ça?
Justement, c'est une des raisons qui peut expliquer que le marché n'est pas si solide que ça. C'est-à-dire que vous avez eu des hausses très fortes des prix de l'immobilier nourris par les bonnes conditions du crédit, mais vous avez un décalage très important par rapport à l'augmentation des revenus des Français. Ce qui est un des symptômes qu'un retournement est possible, parce qu'à un moment, ça devient insoutenable.
Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des étrangers aussi qui achètent et qui contribuent à l'augmentation des prix, Thomas Grzebin ?
C'est difficile à dire. Par exemple, sur Paris, c'est vrai que c'est un argument qui est souvent avancé, qu'il y aurait des étrangers riches qui viendraient acheter à Paris, qui feraient augmenter les prix. Il y a quelques études qui ont été menées. Par exemple, que sur 97-2007, qui est la dernière période où il y a une étude, la présence d'étrangers n'expliquait que 5% de l'augmentation des prix. Donc ça doit jouer, mais ça joue relativement à la marge, comme facteurs. C'est plutôt des facteurs plus spéculatifs qui jouent. Et il faut comprendre que, par exemple, dans la période 2012-2015, les prix avaient baissé de 7% à Paris. Et donc, c'est depuis 2015 que les prix réaugmentent de façon très forte. Donc, il y a vraiment des phénomènes spéculatifs. Quand ça va moins bien économiquement, les prix baissent, les agences attendent à des baisses de prix et donc le marché ralentit. Et à l'inverse, vous avez des moments où ça s'accélère comme c'est le cas aujourd'hui.
Comment se situent justement les autres grandes villes françaises, Lyon, Marseille, Toulouse?
En fait, ce qu'on observe en France, c'est vous avez des grandes villes où les prix augmentent fortement, donc Paris, Strasbourg, Bordeaux, dont on a beaucoup parlé, mais vous avez un décrochage du reste du territoire. Et ça, c'est vraiment un phénomène qu'on observe depuis le début des années 2010. Vous avez ce décrochage entre les grandes agglomérations et le reste du territoire qu'on observe par exemple aussi en Angleterre, entre par exemple Londres.
Ah, c'est pas seulement en France.
C'est pas seulement en France, on observe ça dans dans les pays européens et également par exemple en Chine, vous avez ça aussi entre les plus grandes villes et le reste du territoire, vous avez un décrochage parce que c'est là où vous avez le pouvoir d'achat. Et donc quand les prix sont déjà très très élevés, vous avez des gens qui ont encore les moyens d'acheter à ces niveaux de prix très élevés.
Et oui, parce qu'il y a des régions en France, alors vous dites que c'est le cas également dans d'autres pays, Thomas Grzebin, où les prix de l'immobilier diminuent.
Oui, exactement. Alors, ce qu'on observe, alors là c'est à l'inverse, c'est que depuis un an environ, les prix commencent à baisser. Par exemple, à Londres, ils ont commencé à baisser, à New York, ils ont baissé, à Genève, ils ont baissé, dans des grandes villes qu'on peut comparer d'une certaine mesure à Paris, vous avez un début de baisse de prix. Parce que de nouveau, les niveaux atteints étaient tellement élevés que les gens pouvaient simplement plus acheter. Et donc, c'est une des craintes qu'on peut avoir pour Paris, une crainte où d'un point de vue économique, mais ce qui est aussi sera peut-être
un espoir
pour beaucoup de gens, c'est que les prix enfin finissent par baisser à Paris.
Mais enfin, la dernière étude que l'on possède, je songe à une étude de l'UBS qui a été publiée fin 2018. Elle comparait une vingtaine de villes au monde et elle montrait que les prix de l'immobilier avaient augmenté en moyenne de 35% en 5 ans.
Oui, c'est des chiffres énormes, mais c'est de nouveau, les taux d'intérêt sont très bas depuis une petite dizaine d'années, et donc ça favorise l'émergence de ce qu'on peut presque appeler de bulles immobilières, c'est-à-dire de très fortes augmentations des prix immobiliers qui sont déconnectées de l'augmentation des revenus des gens, quoi.
Mais alors, vous qui suivez ça attentivement, Thomas Grébin, est-ce que ce cycle, il est généralement mondial? Est-ce que on assiste à une augmentation des prix dans les grandes villes partout dans le monde et puis, à contrario, des bulles qui éclatent un peu partout simultanément?
Oui, tout à fait. En fait, depuis le milieu des années 80, avec la déréglementation financière, ce qu'on observe, c'est ce qu'on appelle un peu un cycle immobilier mondial. C'est-à-dire que au milieu des années 80, vous avez une déréglementation financière, et à partir de là, vous avez une poussée du crédit en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Espagne. Et ce qui a provoqué des booms immobiliers dans ces pays, puis des cracks immobiliers au début des années 90, puis à nouveau des booms immobiliers dans la plupart des années 2000. Et donc vous avez vraiment cette synchronisation des cycles immobiliers qu'on observe depuis le milieu des années 80. Comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on observe à l'inverse depuis quelques années, c'est une désynchronisation entre les grandes villes et le reste du territoire.
Ah oui, parce que alors, donc ça, c'est particulièrement accusé en France.
C'est particulièrement accusé en France, c'est le cas aussi au Royaume-Uni, mais par exemple, c'est le moins le cas aux États-Unis. Si vous regardez aux États-Unis, la hausse des prix à New York est à peu près la même que dans le reste du territoire. C'est aussi parce qu'aux États-Unis, vous avez une correction très forte. Et donc, après 2007, après la crise des subprimes, les prix ont beaucoup baissé. Et donc, les prix sont pas complètement aux États-Unis déconnectés par rapport à l'augmentation des revenus.
Mais l'écart de prix entre, l'immobilier le plus cher en France, j'imagine que c'est à Paris, et l'immobilier le moins cher que l'on peut trouver dans différentes régions rurales, avec bien souvent un déficit d'emploi, Thomas Grébin.
Bah, l'écart, il est énorme, mais cet écart, on le trouve aussi dans les autres pays. On le trouve à Londres. Londres, c'est aussi spectaculaire. Entre les quartiers les plus chers de Londres et des quartiers plus abordables, vous avez aussi des écarts de 1 à 5. Donc c'est quelque chose qui existe dans la plupart des pays. Mais ce qui est spectaculaire en France, c'est vraiment que à Paris, à Londres, à Bordeaux, dans les grandes villes, vous avez une très forte augmentation depuis 2015.
Et puis alors, dernière question, Thomas Grébin. Donc on a vu qu'il y avait aujourd'hui une baisse qui était entamée à Londres, à New York. Est-ce que l'on peut imaginer une diminution des prix de l'immobilier à Paris, en France, qui soit une baisse progressive, ou bien va-t-on assister à une bulle qui éclaterait?
Je pense que c'est peu probable qu'il y ait un crack, mais par contre, vous pouvez avoir un ralentissement comme ce qu'on a observé à Paris entre 91 et 97, où les prix ont baissé de plus de 40% corrigé de l'inflation.
Ah bah ça, donc, c'est quand même considérable.
C'est considérable, oui, mais vous n'avez pas comme un crack à l'espagnol où en quelques mois, les prix baissent très rapidement.
Merci beaucoup Thomas Grébin, vous êtes économiste au CEPI et spécialiste notamment des cycles immobiliers.